France Inter.
En route pour un monde nouveau. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. L'émission qui chaque semaine se donne une heure ou presque pour prendre du recul sur les petits et grands bouleversements de notre temps. Et cette semaine, on s'intéresse au nouveau travailler plus. Ça n'est plus la durée du travail qu'il faut augmenter, mais le nombre de travailleurs.
Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens. Et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez.
C'est notre Premier ministre François Bayrou que vous venez d'entendre dans sa conférence de presse sur les finances publiques le mois dernier. D'après une note du Conseil d'analyse économique, les Français travailleraient 100 heures de moins par an que leurs voisins anglais ou allemands. Il faut augmenter la quantité de travail, mais comment, dans quelles conditions et aussi pourquoi? Pour 60% des Français, le travail est avant tout une source de stress. Et pour la nouvelle génération, ce n'est plus le seul moyen de s'accomplir et de s'épanouir. Pour autant, le dernier rapport de l'Institut Montaigne sur les jeunes et le travail nous dit que la satisfaction dans la vie est toujours étroitement liée à la satisfaction au travail. Alors, travailler mieux pour travailler plus sera-t-il le slogan des années à venir? On en converse dans une première partie d'émission. Et puis, mieux faire l'amour pour plus faire l'amour, tiens, c'est le projet de la sexualité qui vient. On en parlera en deuxième partie d'émission avec la chercheuse Marie Bergström qui a montré dans une enquête que les jeunes ont un appétit sexuel qui s'élargit aux deux genres. C'est le cas de l'humoriste et tiktoker Roman Dodwick, invité il y a quelques semaines de l'émission Quotidien.
C'est vrai que les bisexuels, je trouve qu'on n'est pas trop respectés. Je trouve qu'on a un peu la sexualité la moins respectée. On dit « je suis bi », on fait « ah ». On nous prend un peu pour des indécis. On est les Bayrou du cul, quoi. On est vraiment le modem. Les centristes. On est les centristes de la sexualité.
Alors, plus de travail de qualité sera-t-il égal à plus de sexe avec tous les sexes? C'est le menu d'un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Faut qu'on parle d'un truc. Comment est-ce que nos parents, ils sont restés 20 ans, 25 ans dans les mêmes tafs, à faire la même chose tous les jours, 5 jours par semaine, 35 heures par semaine, parfois même plus, pour des salaires même pas incroyables? Comment cette vie, elle peut nous donner envie aujourd'hui? En fait, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me dire que je peux rester dans une boîte plus que, je sais pas, 5 ans. Déjà, 5 ans, ça me paraît énorme!
Peut-on encore se projeter dans une carrière de 30 ou 40 ans alors que 5 ans, c'est déjà énorme? Selon la créatrice de contenu Lorraine Lévy, alias Lo Lévy, que vous venez d'entendre et qui est avec nous ce soir pour échanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vos côtés. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Méda. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sociologie à Paris Dauphine, grande spécialiste du monde du travail et des politiques sociales. Vous signez Une société désirable, comment prendre soin du monde chez Flammarion. Et pour compléter cette tablée, l'entrepreneur Moussa Camara. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'association Les Déterminés, une association qui accompagne de jeunes entrepreneurs des quartiers populaires. Et on vous a découvert dans la matinale, vous étiez invité de notre format Nouvelle Tête à 9h50 l'année dernière. Alors d'abord une question à tous les trois, est-ce que vous seriez prêt à travailler plus? Je commence par la Benjamine de la tablée, parce qu'on vient de vous entendre, Lorraine Lévy, certainement pas, ou en tout cas pas au même endroit.
Non, je pense qu'aujourd'hui j'ai un bon équilibre, j'ai pas envie de travailler plus.
Là, vous avez à peu près quelle voilure par semaine?
Alors moi, je travaille un peu tous les jours. Donc je pense que je travaille 4 ou 5 heures par jour, mais 7 jours par semaine. Quoi.
Et vous êtes votre propre boss?
Exactement.
Dominique Méda, dans votre métier de sociologue du travail, vous voudriez travailler plus?
Les enseignants-chercheurs, vous savez, on dit souvent que les enseignants, ils font rien. Ils travaillent juste, ils viennent juste pour faire leur enseignement et puis c'est tout. Je crois, en tout cas, avec mes collègues, on travaille presque tout le temps. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut travailler plus? C'est peut-être difficile.
D'accord, vous êtes déjà au max. C'est votre cas aussi, Moussa Camara, non? Vous êtes au max?
Moi, je suis au max, je pourrais être encore plus au max. J'ai beaucoup d'énergie encore, je suis encore jeune. Et c'est vrai que pour moi, le travail, c'est aussi ça a été un vrai levier d'émancipation individuelle, personnelle. Et j'ai réussi à créer un travail dans lequel je suis épanoui et moi ça me va.
On peut rappeler votre parcours quand même, vous étiez venu rebrancher une box et ouais. Vous êtes reparti.
J'ai monté ma première entreprise comme ça à l'époque, dans les télécoms et dans l'informatique. Après plus tard, aujourd'hui j'aide des milliers de personnes à se lancer, à créer leur entreprise. Et c'est magnifique parce qu'on les voit au début et on voit la transformation qui s'opère en plusieurs mois, plusieurs années. Et aujourd'hui, ils sont à la tête de belles entreprises et ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur. Et pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant d'être là, de débattre aussi avec, avec vous deux, parce que pour moi, le travail, c'est vraiment un vrai levier d'émancipation personnelle. Ça redonne de la dignité et c'est important.
Alors, on va écouter la ministre du Travail, Astrid Panosyan.
On travaille individuellement, mais pas collectivement. Et par rapport au pays, à l'Allemagne ou à l'Angleterre, où on est 11 sur le terrain de foot, nous, on n'est que 8.
Cette image de l'équipe de foot très parlante, Dominique Méda, est-ce que ça veut dire donc qu'on est moins nombreux sur le terrain du travail que nos voisins européens, parce qu'on a du mal à faire travailler les 16-29 ans et les travailleurs expérimentés, c'est ça?
Bah, on a du mal à les faire travailler, c'est-à-dire, vous voyez, il y a quand même une espèce de norme derrière tout ça. Il y a l'idée que tous les jeunes devraient être tout de suite sur le marché du travail, mais moi je croyais qu'on était content que les jeunes fassent des études. Voilà, les jeunes font des études et c'est très bien, alors pas tous, mais je crois que voilà, faut quand même qu'on s'interroge là-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on veut ?
L'idée, c'est... Oui, vous dites, est-ce qu'on est là pour finalement remettre au travail les jeunes plus tôt et donc supprimer cet espace qui était les études supérieures, sachant qu'il y a deux ans à peu près de grosses galères quand même après
bien sûr,
pour avoir un emploi après le diplôme.
Ça, c'est très important. Peut-être qu'on y reviendra, ouais. Parce que tout le monde dit les jeunes, ils veulent plus travailler, gna gna gna. C'est complètement faux. Les jeunes, ils ont des conditions de travail très difficiles, plus difficiles que les autres. Ils ont des contrats précaires. Ils mettent un temps fou à être acceptés, à être stabilisés sur le marché du travail. Donc, faut pas exagérer. Mais je posais juste cette question, est-ce qu'on a envie que tous les jeunes à 20 ans soient sur le marché du travail? Bien sûr que non. On a envie aussi que beaucoup de jeunes fassent des études. Quant aux seniors, hein, voilà, c'est ça nos deux problèmes.
Les travailleurs expérimentés.
Les travailleurs expérimentés, eh bien, c'est vraiment pas de leur faute s'ils travaillent pas. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui sont usés par le travail, ça c'est hyper important. On reparlera, j'espère, des conditions de travail. Ils sont usés. Et puis, il y a des seniors dont personne ne veut. C'est-à-dire, on se sépare d'eux vers 50-55 ans, et là, c'est fini.
Après 56 ans, le retour à un emploi stable est devenu vraiment très complexe.
Voilà. Donc, moi, je suis bien d'accord, il faut faire des choses, mais on attend, quoi.
Et donc, l'idée de travailler plus chaque semaine, en revanche, ça s'éloigne. L'option, c'est de faire travailler plus de monde. On est d'accord là-dessus.
Je crois que c'est pas le problème, hein, ouais. de faire travailler les gens de plus longues heures. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, hein, OCDE, etc., qui sont les pays qui travaillent le plus longues heures de travail? Le Mexique, la Turquie, le Costa Rica, c'est pas non plus des pays
des compétiteurs dans l'économie mondiale.
Qu'on envie complètement. La question, hein, c'est dans ces heures de travail, qu'est-ce qu'on produit? Est-ce qu'on est productif? Et pour l'instant, la France, même si elle a un petit peu perdu en productivité, elle reste productive.
Moussa Camara, vous qui accompagnez les jeunes entrepreneurs dans les quartiers populaires, vous en parliez, ils sont de plus en plus nombreux. Mmh. Est-ce que ceux qui viennent vous voir, ils ont eu un effet de frustration par rapport à ce qu'ils attendaient du travail, un contrat pérenne, par exemple, comme un CDI?
Bah déjà, il y a plusieurs constats. Il y a le premier constat dans le sens où parfois on a beaucoup de jeunes qui malheureusement ne trouvent pas un emploi, même après la sortie d'études. Et surtout, si on fait le parallèle à l'éducation nationale, c'est que, ok, on est là pour pousser des jeunes à faire beaucoup plus d'études, mais il faut aussi préparer ces jeunes à rentrer dans le marché du travail. Ce qui fait en sorte que quand ils sortent de leurs études, ils sont pas du tout préparés. Et ça crée
Nature des études, donc vous questionnez.
Et ça crée un peu un gâchis humain. Et souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rattraper tous ces jeunes qui sortent du système scolaire sans formation, sans emploi, pour pouvoir les accompagner. Parce que des entreprises, elles sont présentes, elles veulent aussi créer des opportunités, mais elles savent pas quoi faire. Elles savent pas comment faire. Et c'est vrai qu'il y a un problème aussi, parfois, de discrimination qui existe, qui fait en sorte que parfois, des jeunes peuvent être déçus du monde du travail et préfèrent créer leur propre ouais. boulot. Quoi.
Oui, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils envoient leur CV et ça ne marche pas, donc au bout d'un moment, ils créent leur propre entreprise.
Ils ont fait tout ce qu'il fallait, on leur a demandé de faire des longues études, d'avoir les bons diplômes et tout, et à la sortie, ils se rendent compte que finalement, il y a un mur. Et ce mur-là, à un moment donné, soit on baisse les bras, soit on essaye de le défoncer par nos moyens, et c'est ce qu'on fait, nous, avec les déterminés, c'est de créer un peu ce pont entre ces talents, ces jeunes qui ont de l'énergie, qui ont la volonté de s'en sortir, qui ont du courage, mais en face, qui n'ont pas les opportunités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je discute avec pas mal de bénéficiaires, qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez jamais eu d'expérience professionnelle? J'ai essayé de faire un stage. J'avais pas de réseau, mes parents n'avaient pas de réseau, donc j'ai fait un stage dans un commerce du coin, Du coup, ils ont une vision du travail qui n'est pas forcément la bonne.
Oui, on dit souvent, on fait son stage au kebab, en fait, au lieu d'avoir une place dans une entreprise. Il y a une association qui lutte contre ça, c'est Viens voir mon taf. Hein,
ouais,
qui,
ils font un vrai travail.
Ils font un gros boulot là-dessus.
Que je connais, on est dans, un peu dans les mêmes écosystèmes. Mais au-delà de ça, c'est, pour moi, c'est vraiment comment on revalorise des parcours de réussite et qu'on revalorise le travail pour tous.
Lorraine Lévy, vous avez 29 ans, vous avez plaqué votre CDI d'ailleurs. Pour devenir TikTokeuse, c'était osé, non?
La description.
Bah, en plus, c'était il y a 3 ans, à l'époque, il n'y avait pas de contenu qui cartonnait sur le travail. C'était plutôt les tutos beauté qui cartonnaient sur les réseaux.
Exactement, j'ai commencé à faire des vidéos il y a 3 ans. Ça fait 1 an que je fais que ça, que j'en vis. Donc j'ai quitté mon CDI, j'ai dit à mes parents, je vais faire des vidéos sur Internet.
Et ils l'ont évidemment très bien pris, j'imagine.
Ça, ouais. C'était moyen.
C'était frileux.
Mais en vrai, maintenant qu'ils voient que ça prend de l'ampleur et que c'est un sujet qui est vraiment de plus en plus abordé sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux et que ma parole a un impact, ils me prennent plus au sérieux, heureusement.
Vous tenez bon sur TikTok avec vos 500 000 abonnés qui vous suivent. Rien que ça, ça fait une sacrée commu. Et cette commu, justement, est-ce qu'elle n'est pas pile poil dans les fameux 16-29 ans qui n'ont pas accès au travail? Ils vous disent quoi, vous avez, dans les messages que vous recevez, Lorraine Lévy?
Alors, c'est vrai que la majorité des gens qui me suivent ont, on va dire, moins de 34 ans, parce qu'on a des statistiques sur Instagram et TikTok. Moi, quand même, le retour que j'ai le plus aujourd'hui, c'est qu'ils essayent vraiment de trouver du travail. Dire que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est juste être complètement déconnecté de la réalité. Je veux dire, de toute façon, ne pas travailler, c'est un privilège que quasiment personne ne peut se permettre. Au contraire, aujourd'hui, on se définit beaucoup par son travail, c'est vraiment, on a l'impression que notre travail définit notre valeur, donc c'est très dur quand on commence son parcours au chômage, ou en n'ayant même pas le chômage parce qu'en fait on n'a pas cotisé, et qu'on se retrouve dans une grande précarité, dans une grande solitude, et honteux aussi. Donc il y a quand même une grosse détresse. Je trouve qu'il y a trop de stigmatisation autour des jeunes qui cherchent du travail ou qui quittent un travail toxique parce qu'ils n'ont pas envie de sacrifier leur santé mentale.
En fait, si on est 10 à 12 points par rapport aux autres pays sur cette tranche d'âge, c'est pas parce que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. En fait, c'est ça que vous essayez de rappeler.
Exactement. Exactement. Moi, il y a énormément de gens qui me contactent pour me dire mais je suis dans un job où ça ne va pas du tout et en fait, je ne pars pas parce que je n'ai pas d'autre option. Et du coup, je reste et je prends des anxiolytiques. Politique, mais parce qu'il n'y a pas de taf en fait. Et encore pire, ceux qui cherchent en vain pendant 1 an, 2 ans et qui se retrouvent à devenir caissier alors qu'ils ont un bac plus 5. Et c'est pour eux parfois humiliant.
Travailler mieux pour travailler plus, on s'en reparle juste après Centrale 6 sur France Inter.
Mason. It's lonely at the top, lot of people are watching and want me to flop. I'm telling the kids if I can do it, then anyone can. Car came from none, one stop and search away from the block. In this life I don't feel fear, only man that can make me afraid is God. Negative press on a shade room, anything good it don't make the blogs. They did a set at the table, when it was chicken shop, now steak and lobster, edamame and pan-Asian cod. My first bedroom smaller than a jail cell, now the crib's on a 10-acre block. First time I committed a crime was petty, I couldn't afford what the trainers cost. First time I saw crack, I was just 16, witnessing that at that age was wrong. Detached myself from every emotion, hoping I'll get my paper long. One brick phone, one iPhone, no SIM, listening to the same old song. I'm jumping the barriers, if the inspector get on the train, I'm gone. Now the whip that I'm in's an impatient one, put my foot on the gas when the light goes amber. Try touch me and guns will shoot, we don't do kung fu and fight like panda. My guy's a convicted criminal, so he got a hide from cameras. All of my bitches pretty as hell, I could start up a beauty pageant. How'd I end up all the way in Clapham? I started my day in NW2. Delivering food direct to your door, you can leave a review like Deliveroo. Sticks outside for a special occasion, nank on hip, that's everyday shit. Gotta thank God that I never did, dark and light did sell it in two. Before I got it invite to Mike Rubin's all-white party, 4th of July. I was sat in a trap with a pack all night. Cocaine fragrance, weren't dressed in white. 15 minutes away from the shop, but I said that I'll get there in less than 5. It gives me the ick when girls come around and try too hard to impress the guys. I sat and I told the Sony exec, if you give me a 10 for a tape, I'll sign. Everything's gonna come to an end, when I counted the M, I was on cloud 9. If it weren't rap, I would've been a pimp. I look at a bitch and I see pound signs. Plus 1,000 aura, even if I don't talk, they'll feel our vibe. Label execs don't care if we're murderers, long as your cat
catalogs bringing in revenue. They'll sign you and when you go broke, I end up in jail, they're quick to forget you. I can't worry about album sales, I got serious shit that I'm trying to get through. How can they talk down on my name for trying to get paid? I'm playing a chess move. GTA, I'm using cheat codes. Cheat at school and exams, I'm fucked. I cheat on my wife, but how can you blame me? I cheated life. I wasn't supposed to make it this far. I got no grades, I ain't even wise. Walk down Uxbridge Road, I reckon I'm one in three of these people high. Supply and demand, that's how I get by. She telling me how trap boys are tight. I'm trying to not get too used to the life. I'm staying inside, avoiding a height. So many gal that are wanting to fuck, I'm turning them down, they're wondering why. I'm nonchalant, not shy. My entourage top five. I'm probably one of the, I've gotta be one of the greats. I'll get number one album easy. It's not like the bar set high these days. I came in a scene at all time low, I don't know, but I think I revived the game. I've been praying that times would change. Premeditating a graceful exit. In the meantime, I'll try maintain. Alright.
Listen.
Le premier rappeur anglais à avoir atteint le milliard d'écoutes en ligne, Central Cee à l'instant sur France Inter, avec ce titre Top Freestyle, où il raconte sa vie d'avant, de dealer et de livreur, portrait d'une jeunesse londonienne qui galère. Il vient d'être couronné au trophée des musiques populaires Les Flammes pour son titre Bolide Noir, avec le rappeur parisien qui décolle, JRK19. En voilà une jeunesse qui charbonne.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Mon taf, c'est d'arriver à 9h et de repartir à 17h. Et on me paye pour faire ce qu'on me demande de faire au moment où il faut le faire.
Hé hey.
Oui.
Tu peux apporter ça au deuxième étage?
Oui.
Là, par exemple, je suis payé.
Ah.
Oui.
Il n'y a plus de feuilles à trois dans la photocopieuse?
Oui. Là, je suis payé.
Il n'y a plus de filtre à la machine à café?
Ouais. Je t'apporte ça dans 10-15 minutes, j'ai juste un truc à faire avant, ok?
Et là, je suis payé. On m'a dit que si j'avais une question, je pouvais la poser à Thierry, mon référent.
Tu sais où sont les documents comptables de l'année dernière?
Ah, les documents comptables.
Le problème, c'était ses réponses. Il faisait que des débuts de phrases.
Alors le truc, en fait, c'est que... toi, t'es... Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou... Le... Ah oui, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... Non, mais en fait, ce qu'il faudrait... Oublie ce que je t'ai dit.
On l'adore, Thierry. Extrait de la saison 2 de la série Bref, hein, c'est sur Disney+, avec le personnage de Kian Kojandi qui ne s'épanouit pas vraiment dans son travail. Nous sommes toujours avec la sociologue Dominique Méda, l'entrepreneur Moussa Camara et la créatrice de contenu Lorraine Lévy, alias Lo Lévy. Je m'adresse à la sociologue Dominique Méda. En France, on est vraiment en queue de peloton en termes d'épanouissement au travail, justement. Vous le montrez dans vos recherches. Il y a un problème chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est autant à la traîne sur tout, je crois, tous les indices, hein, tous les oui. indicateurs?
Oui, il y a un problème, exactement. Il y a un problème avec les conditions de travail en France. Enquête conditions de travail française, elle montre que 37% des gens qui travaillent disent qu'ils ne se sentent pas capables de rester dans le même travail jusqu'à la retraite. 32% des cadres, 39% des ouvriers et des employés, plus les femmes que les hommes, beaucoup plus les jeunes que les seniors.
Ça, c'est quand même un point de bascule.
Oui.
Parce qu'avant, ils étaient frais d'une certaine manière en arrivant sur le marché du travail, donc plus enclins à dire qu'ils allaient rester. Aujourd'hui, les seniors sont capables de le dire.
Oui, et ce qu'on voit là... Alors, c'est aussi parce que les seniors, ils ont été peu à peu éjectés. Donc, ils sont moins nombreux à dire qu'ils pourront
pouvoir parler.
Voilà.
Je ne pourrais pas continuer parce que j'ai plus de taf.
C'est ça.
Okay.
Et les jeunes, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils ont vraiment de mauvaises conditions de travail. Et puis, par ailleurs, on a une enquête européenne sur les conditions de travail. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on peut comparer sur 36 pays. Et qu'est-ce qu'on voit, en effet, que la France est vraiment le mauvais élève sur tous les items. Les pénibilités physiques, les contraintes émotionnelles, le fait qu'on n'est pas reconnu, le fait qu'on ne se sent pas payé à sa juste valeur, le fait surtout qu'on n'a pas voix au chapitre. Donc on est dans des organisations hyper serrées. Alors vous me dites pourquoi? À mon avis, alors quand on regarde un petit peu en comparaison, ce qu'on voit, c'est qu'en France, on a une conception beaucoup plus hiérarchique du travail et de l'entreprise, avec beaucoup moins d'autonomie, beaucoup plus de choses qui vous descendent comme ça dessus, beaucoup moins de pouvoir donné aux syndicats ou aux partenaires sociaux, par exemple dans les pays nordiques. Là où il y a le plus de bien-être au travail, c'est là où il y a le plus d'organisations dites apprenantes, j'ai de l'autonomie et je peux dire des choses, je peux participer à la décision, et c'est dans les pays nordiques, qui comme par hasard, présentent un haut niveau de codétermination. C'est-à-dire, on travaille ensemble, ceux qui travaillent ont la parole. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on revoie complètement nos organisations de travail.
Et puisqu'on écoutait cet extrait de la série Bref, saison 2, est-ce que c'est lié aussi à la nature des postes? Là, on voit, c'était pas très excitant ce qui était proposé.
Bien sûr, bien sûr. J'avais envie tout à l'heure, en début d'émission, de redire cette très belle citation de Galbraith, qui écrit « Vérité et mensonge de l'économie », et il dit « Mais on emploie le même terme de travail pour tout le monde. Pour ceux qui ont un boulot absolument insupportable, et puis pour ceux qui ont un travail super intéressant, où ils gagnent très très bien leur vie, on n'a pas le droit d'utiliser le même terme pour ça. » Vous avez parfaitement raison, il y a une énorme diversité de modes et de types de travail.
Voilà, ça dévoile quel travail, de quel travail on parle. Plus de 60% des Français disent que le travail, donc en tout cas, est une source de stress. Est-ce que ça aussi, c'est un point de bascule, oui, Dominique Méda?
Oui, vous avez vu aussi qu'il y a énormément de burn-out. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus le travail. Et c'est cet ensemble de pénibilité. C'est aussi le fait qu'on parle beaucoup de sens du travail. J'ai des collègues qui ont écrit un très beau livre qui s'appelle « Redonner du sens au travail » où ils disent que le sens du travail, c'est être utile, avoir une capacité d'agir, pouvoir changer les choses et ne pas avoir de conflit éthique. Ce qu'on voit quand on regarde toutes les enquêtes, y compris européennes, c'est qu'il y a une spécificité française, c'est que les gens attendent énormément de choses du travail.
Oui. Hein, le travail peut tout
Alors, particulièrement les jeunes. Les jeunes, ils sont plus de 80% à dire que pour eux, ce qui est important dans un travail, c'est de réussir quelque chose. Mm-hmm. C'est-à-dire de montrer de quoi on est capable, en fait.
Il faut remettre le travail bien fait au cœur de l'ouvrage.
Exactement.
Justement.
Et le problème, c'est que c'est justement dans notre pays que ces énormes attentes se fracassent le plus sur la réalité des conditions d'exercice du travail.
C'est parce qu'en plus, nous, on a particulièrement une attente un peu transcendante, par rapport au travail.
C'est possible.
On est particulièrement moins bien servi en termes de boulot.
C'est possible qu'il y ait en effet une explication dans ces très très fortes attentes qui sont mises sur le travail, parce que le travail, c'est aussi le statut social, hein, en plus de montrer qui on est, sa singularité, ses capacités et tout ça.
Alors, il y a aussi cet effet, vous l'avez souligné, on aurait pu s'attendre que dans une société de service avec des tâches automatisées, ce soit plus agréable de travailler parce qu'on se libère de certaines contraintes, et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Comment vous réagissez, vous, Moussa Camara, par rapport à l'organisation du travail, pour vous, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce serait quoi votre diagnostic? On a essayé un peu avec Dominique Méda de lancer quelques pistes.
Ben moi, en fait, quand je suis un peu surpris du sondage, parce que 66% des Français pensent que le travail, ça leur apporte
source de stress.
C'est une source de stress. Déjà, je pense qu'il faut... pour moi, le travail, c'est pas le monstre. Aujourd'hui, travailler, c'est... Moi, depuis tout petit, on me dit qu'il fallait travailler, que le travail, c'était intéressant. C'est là qu'on trouve un peu une voie de d'émancipation, on va dire, entre guillemets. Mais au-delà de tout ça, c'est de se dire que, en fait, par rapport au travail, c'est comment on repense le travail, comment on repense notre manière de travailler. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Méda, des conditions de travail. Pour moi, il est là, le sujet.
Oui.
Le vrai sujet, c'est pas que les gens... ils se sentent pas forcément épanouis au travail, c'est que les conditions de travail sont de plus en plus compliquées. Mais après, les pistes de solutions, elles sont beaucoup aujourd'hui. En plus, certains, les jeunes générations d'aujourd'hui, moi, ce que je vois aujourd'hui quand je rencontre des jeunes, ils ont envie de sens. Ils travaillent pas que pour de l'argent. Ils travaillent pas que
même
pour
si
avoir une
carrière.
Même si
c'est comme le facteur 1 dans les attentes. Hein.
Bien sûr, c'est le facteur, mais ce qui les intéresse, c'est d'être embarqués dans une mission où ils sentent qu'ils ont un impact dans la vie des gens, dans la vie de la planète, dans l'environnement, etc. Et ça, peut-être qu'il faut réfléchir à comment peut-être améliorer toutes ces aspirations de ces jeunes pour mieux les attirer et pour qu'ils se sentent encore mieux.
Lorraine Lévy, vous avez eu une période de grand stress quand vous étiez en agence de pub. Vous avez même souffert de bruxisme.
Je me suis cassée
dedans. C'est quoi le bruxisme?
Le bruxisme, c'est quand on serre très très fort la mâchoire. Et du coup, parfois, il y a des gens qui le font que la nuit. Et moi, je le faisais la nuit et le jour. Et en fait, à tel point que je me suis cassée des dents. Donc, je me rendais bien compte que j'avais mal. Mais en fait, un jour, je suis allée chez le dentiste en pensant que j'avais une carie. Et le dentiste m'a dit, mais est-ce que vous décapsulez des bières avec vos dents? Et je dis, bah non, pas du tout. Du coup, il m'a dit, bah deuxième option, est-ce que vous êtes stressée? Ah oui, je suis stressée. Bah, vous cassez vos dents, en fait. Faut arrêter de casser vos dents. Ouais. Et c'était parce que le travail me mettait dans un état d'anxiété. J'en rêvais la nuit. J'étais hyper stressée et je voulais faire bien et je voulais être bien vue. Et le problème, c'est que Comme on le disait, les conditions de travail ne me permettaient pas déjà de travailler correctement.
C'était quoi les conditions de travail? Puis on sent quand on serre les dents, ça veut dire qu'on encaisse.
Ouais, et qu'on dit rien. Ouais. Vraiment serrer les dents, ouais. Et on prend et on dit rien. Bah, par exemple, on parle beaucoup du quiet quitting, mais on parle très peu.
C'est la démission silencieuse, les gens qui font un peu rien au travail, enfin le moins possible.
Le minimum, en tout cas, syndical, mais on ne parle pas beaucoup du quiet hiring, c'est-à-dire le fait de ne pas embaucher de nouvelles personnes quand certains partent. Et donc, moi, par exemple, je me suis retrouvée dans une équipe où il y a eu plein de gens qui sont partis, ils n'ont pas recruté de nouvelles personnes, sauf que le travail restait le même. Donc les missions ont juste été redistribuées, et on nous a dit, mais c'est bien, comme ça, ça vous permet d'évoluer, vous avez des nouvelles compétences, sauf que le temps de travail...
Pas de nouveau salaire,
le temps de travail n'est pas extensible, et du coup, moi, j'étais frustrée de ne pas bien faire mon travail. Donc j'avais l'impression de bâcler, en fait, ce que je faisais. J'étais tout le temps hyper angoissée de répondre à mes mails et être sur mes visios avec mes clients et rendre des missions à la hauteur, en fait. Et du coup, en fait, juste, on n'est pas bien dans son travail quand on ne peut pas travailler correctement et qu'on ne nous donne pas les moyens pour le faire.
Est-ce que là, il y a justement, Dominique Médaille, il y a une nature aussi du marché des entreprises françaises. 75% de l'emploi en France appartient à un groupe dont la logique est de faire remonter la valeur ajoutée vers la tête du groupe.
Ça dit quelque chose. Mais je voulais rebondir sur le propos de Lorraine. C'est exactement quand on fait des... Moi, je fais beaucoup d'enquêtes. C'est exactement ce propos qu'on entend. C'est-à-dire, on est obligé de saboter notre travail. On ne peut pas bien faire notre travail. Et ça, ça fait souffrir les gens. C'est-à-dire que le travail, ça peut être à la fois, comme dit Boussa, un opérateur de santé, ou ça peut, ça c'est les sociologues du travail passent leur temps à répéter ça, c'est très important, ou ça peut en effet vous détruire complètement quand vous avez des injonctions contradictoires, un management toxique, en effet la pression de la rentabilité. Alors certes, les
entreprises... Là c'est le cas quand on n'embauche pas de personnes poste à poste.
Absolument. Et puis aussi, un reproche qu'on entend en France, c'est un management qui est trop fondé sur le diplôme. C'est-à-dire, vous avez des gens qui arrivent des grandes écoles, et puis qui vous disent ce qu'il faut faire, alors qu'ils connaissent même pas la réalité du travail les résistances que rencontrent les gens, quoi. Et ça rend les conditions insupportables.
Avec un dialogue particulièrement gelé, on va dire, dans notre pays, aucun dialogue,
absolument, un dialogue gelé dans notre pays, contrairement à d'autres. Et donc des gens qui fixent des objectifs mal parce qu'ils connaissent pas la réalité du travail et qui récompensent mal aussi. Je me souviens une personne qui disait: comment voulez-vous que mon manager me reconnaisse puisqu'il ne connaît pas mon travail?
Donc des gens qui sont parachutés en tout cas à des postes, ça c'est une des spécificités françaises, ou quand même dans le cas de la mondialisation que tous les pays traversent, vivent ou subissent, ça dépend.
Par exemple, c'est si on compare par exemple à l'Allemagne, on dit souvent qu'en Allemagne vous avez plus de la promotion interne, donc des gens qui faisaient le boulot qui deviennent les cadres, les supérieurs de ceux qui étaient subordonnés.
Ça c'est un levier. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est aussi devenu un enjeu central dans le discours sur le travail, le droit à la déconnexion, le refus des heures sup, la semaine de 4 jours. Ces exigences, elles vous paraissent réalistes? Vous, l'entrepreneur Moussa Camara, vous en avez fini justement de proposer des métros boulot dodo à vos salariés?
Moi j'ai beaucoup évolué là-dessus, j'étais un peu fermé au début et tout, mais c'est vrai que quand je vois que ça crée plus de productivité par rapport aux équipes, parce qu'elles s'organisent un peu mieux, après je pense que c'est une question de confiance, d'autonomie. Et ça laisse plus... Une fois que les équipes ont plus de liberté, c'est aussi un... Ça fait partie, tout à l'heure, on parlait des conditions de travail, évidemment, ça en fait partie. Et donc, il faut être flexible et pas forcément fermé. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a un peu de mal sur ces sujets-là, parce qu'on veut aller tout le temps à fond et tout, etc. Mais on peut pas aller à fond si les autres ne suivent pas.
Donc vous avez ouvert à la flexibilité.
J'essaye de plus en plus de m'ouvrir.
Des horaires, des missions.
Ouais. Après, c'est surtout de la confiance avec les équipes qui sont là. Et c'est surtout une question de résultat, sans leur mettre la pression.
On va écouter ce que ça peut donner quand ça se passe mal avec le TikToker Ayam Zak.
Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous faire virer de votre CDI pour pouvoir toucher le chômage. Alors, vous n'êtes pas censé savoir qu'avec un abandon de poste, on ne peut plus toucher le chômage. Malheureusement, c'est triste et regrettable, mais il va falloir trouver d'autres techniques de stratagème. Alors, déjà, moi j'ai l'expérience, je me suis fait virer pratiquement de tous mes jobs en fait. Donc vous pouvez me faire confiance, sans lever le petit doigt en plus de ça. Il est temps pour moi de vous inculquer mon savoir-faire en fait. Et oui les gars, mais moi je trouve un peu surréaliste le fait que vous ne sachiez pas vous faire virer quand même. Mais bon, je vous pardonne, on vous a trop appris à être des subordonnés des moutons et pas assez à être des bad bitch. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Alors, qu'est-ce qui caractérise le bon employé? La ponctualité, la présence et la rigueur. On enlève les trois, qu'est-ce qu'on a? Trois avertissements. Trois avertissements égale quoi? Licenciement. C'est parti.
Un guide de licenciement, pareil, Amzac. C'est un genre comique qui s'est développé, une sorte de bureau bashing. Lorraine Lévy, ça raconte quoi, ces vidéos pour vous apprendre à vous faire virer de votre job?
Déjà, c'est très drôle.
Ouais.
Après, bon, c'est pas forcément représentatif de tout le monde, tous les gens qui travaillent et de la jeunesse sur TikTok. Hein, ne commençons pas à faire des clichés, mais je pense que c'est une manière quand même de... Au début, c'était très tabou de parler de travail sur TikTok, de dénoncer le management toxique, de dire qu'on n'était pas satisfait, etc. Et il y a vraiment une libération de la parole. Moi, au début, quand je parlais de travail sur TikTok, je me faisais lyncher parce que je suis une fragile, de toutes les façons, j'enfonce des portes ouvertes, je ne vais jamais rien changer avec mes vidéos, etc. Et puis finalement, maintenant, on est de plus en plus. Et je trouve qu'il y a un impact sur la société. Il y a des managers qui me suivent, il y a des DRH qui me suivent, il y a des patrons qui me suivent et qui me disent « Ok, au début, je ne te prenais pas au sérieux. » Et puis finalement, je commence à me poser des questions. Il y a certaines choses que je mets en place dans mon entreprise et je me rends compte que bah, il faut être un peu plus flexible, en effet, donner plus d'autonomie. Mmh. Ça, je trouve que c'est hyper important parce que le lien de subordination dans le salariat, c'est un truc très français, mais en réalité, on peut laisser de l'autonomie à un salarié tout en le contrôlant, mmh. sans pour autant être tout le temps sur son dos, tout le temps en train de commander, entre guillemets. Mmh.
C'est la co-décision, d'une certaine manière, qu'il faut développer, dont parlait Dominique Méda. Et est-ce qu'on peut parler aussi de cette autre tendance qu'on appelle le revenge quitting, cette fois? C'est-à-dire quitter son entreprise au moment où ça va vraiment l'affaiblir, au pire moment pour elle, et en faire grand bruit aussi ensuite sur les réseaux. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, Lorraine Lévy, ouais, le travail.
J'en ai fait une vidéo, justement.
Le revenge quitting.
Je suis tombée sur une vidéo d'une caissière aux États-Unis dans un grand supermarché qui prend le micro du magasin et qui annonce sa démission voilà, en grande trombe, micro ouvert, en disant voilà, tout le monde est mal payé, tout le monde est maltraité ici, je me casse, en fait je vous emmerde. Et j'ai trouvé ça génial parce que je pense que c'est important de dire quand il y a des dysfonctionnements, et parfois on n'est pas entendu.
C'est une alerte aussi, ça.
C'est
quand
une
même,
alerte, bien sûr, monte. Mais en fait, si on en arrive à ce stade-là, ça veut dire que ça n'a pas marché, tout ce qu'on a pu faire avant, toutes les alertes qui ont pu être lancées avant. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on nous entende, parce qu'on se fait entendre de toutes les façons.
On peut rappeler aussi quand même que selon la note récente de l'Institut Montaigne sur les jeunes et le travail, plus les jeunes sont diplômés, plus ils sont frustrés de ce que leur apporte le travail. On parlait des attentes tout à l'heure, je voulais quand même faire entendre cette statistique. Et puis partout en Europe, on le sait, où on a amélioré les conditions de travail, les salariés ont pu travailler plus longtemps. Moussa Camara, en tant qu'entrepreneur, par quel levier on pourrait agir pour justement améliorer ces fameuses conditions de travail? On a parlé de la flexibilité, on a parlé du sens. Est-ce que dans le management aussi, il y a quelque chose à faire? Il y a peut-être une mauvaise direction qui a été prise à un moment avec des micro-management, des choses comme ça.
Déjà, je pense que chaque entreprise a son mode de fonctionnement. Donc, pour moi, il y a un vrai travail déjà de montrer qu'il y a aussi des exemples positifs, parce que souvent, moi, quand j'entends en ce moment les débats sur le travail, ils sont souvent... ça tire vers le bas, quoi. Un jeune qui écoute ça, il a peut-être pas envie de se lancer dans le monde du travail. Or que parfois, le travail, ça change des vies, des trajectoires et des parcours. Et c'est ça que moi, j'ai envie de dire. Et du coup, il faut améliorer ce qui marche pas. Il faut essayer de repartir de ce qui marche et de proposer des actions concrètes. Donc les conditions de travail, ça en fait partie. Le mode de management, comment aussi gérer aussi le temps des salariés pour s'organiser entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Mais il faut savoir que le travail, en général, ça fait partie de notre vie. C'est une grande...
Ça peut être plus longtemps, d'ailleurs, que le reste de la vie, d'ailleurs.
Non, moi, je parle aussi avec parfois des seniors et tout. Quand ils quittent le travail, ils me disent, des retraités, c'est la petite mort. Ils vont s'ennuyer. Ça veut dire, au travail, ils ne s'ennuyaient pas. Ils avaient un quotidien. Maintenant, ils vont aller peut-être faire du jardinage ou faire d'autres choses. Mais bon, c'est pas le monstre, quoi. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion là-dessus pour trouver des vraies réponses, pour apporter des solutions très concrètes. Mais c'est ce qu'il faut dire aux Français.
Et d'un mot aussi, est-ce qu'on peut dire que le télétravail a apporté évidemment beaucoup, mais a pu aussi devenir toxique, pour finir? Est-ce que ça a été un peu parfois aussi une fausse bonne idée, Dominique Méda?
Oui, ça a été très bien pour un certain nombre de personnes. Et puis les entreprises ont un petit peu douté. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il faudrait à peu près 2 jours de télétravail par semaine, parce que plus ça abîme les collectifs de travail, ça isole les personnes. Aujourd'hui, on a à peu près un quart de la population active qui télétravaille régulièrement. Et voilà, je crois qu'il faut faire attention à ne pas perdre les gens, à ce qu'ils ne s'isolent pas trop. Mais ça a apporté en effet de l'ouverture. Hein. Ça a été intéressant.
Lorraine Lévy, vous parlez du télétravail choisi et pas du télétravail subi dans une vidéo que je recommande. C'est vous vrai. Dites, quand ma table de salon, donc anciennement feu, ma table d'apéro devient ma table de travail, j'invite plus personne et je peux plus voir mon salon en peinture.
C'est pour ça qu'il faut essayer d'inventer des espaces en bas des pieds du meuble ou de proximité où les gens peuvent venir travailler en coworking, mais qui ne sont pas dans leur travail, mais en coworking, ça les évite de...
Ça leur évite d'être tout seul et en même temps ils se déplacent pas non plus à l'autre bout. Et donc quand on économise du temps de déplacement, qu'est-ce qu'on fait? On a plus de temps libre et peut-être qu'on fait plus l'amour, je ne sais pas. En tout cas, c'est une des pistes de la deuxième partie de cette émission. Merci à tous les trois. Bien sûr, vous restez avec nous. Dominique Méda, la sociologue, Moussa Camara, l'entrepreneur et fondateur de l'association Les Déterminés, et Lorraine Lévy, la créatrice de contenu.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. Tu descends, quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
Il y a un an, le monde entier découvrait notre Zao de Sagazan national grâce à sa reprise de Modern Love de David Bowie au Festival de Cannes. Face au succès viral de ce moment, elle avait même finalement sorti son titre sur les plateformes. Le phénomène continue aujourd'hui puisqu'au Brésil, elle cartonne. Sa chanson est diffusée dans un épisode du feuilleton populaire Vale Tudo et ça fait exploser les compteurs des plateformes de streaming à l'international pour Zao de Sagazan. Zao, c'est aussi la VRP d'une autre sexualité.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Au même titre que je suis assez persuadée qu'on est tous bisexuels, je suis assez persuadée que la vérité se trouve dans un monde où il n'y a plus de genre et on s'en fout de ce que t'as dans le caleçon, dans la tête. Je pense qu'il faudra arrêter de dire les hommes sont ça, les femmes on s'en fout, on est ce qu'on est et puis bon quoi. Donc oui, dans le meilleur des mondes, il n'y a plus de question de genre, on se dit pas si t'es un homme ou t'es une femme, on se dit est-ce que t'es gentil ou est-ce que t'es méchant, est-ce que t'es sensible, est-ce que t'es plutôt compatissante, mais on se pose pas la question si on est un homme ou une femme.
Zao de Sagazon, interviewée par Psychologie Magazine. Bonsoir Marie Bergström.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'INED, spécialiste de la sexualité, de la conjugalité et du célibat, et vous avez dirigé l'ouvrage La sexualité qui vient, aux éditions La Découverte. Donc ma question en écho à ce que dit Zao de Sagazon, est-ce que les jeunes s'en foutent aujourd'hui de ce qu'ils ont dans le caleçon ou la culotte ?
En tout cas, ils s'en foutent un peu moins que par le, un peu plus, que par le passé, parce que ce que on observe dans cette étude, et c'est vraiment un des résultats principaux, c'est une augmentation très forte de jeunes de 18 à 29 ans qui vont se définir autre chose que hétérosexuel, donc homosexuel, bisexuel, mais aussi pansexuel. On a de nouvelles identifications. Alors, c'est vraiment une augmentation remarquable parce que on peut comparer avec une étude qui a été faite en 2006, et à l'époque, c'était à peu près 3% des femmes et des hommes de 18 à 29 qui se disaient autre chose qu'hétérosexuel. Et en 2023, c'est 19% des femmes qui sont dans ce cas-là. Donc c'est presque une femme sur cinq finalement qui voilà, ne se
une jeune femme
plus,
sur cinq.
Voilà, qui se définit plus par l'hétérosexualité. Et chez les hommes, c'est 8% en 2023. Donc ça augmente moins, mais quand même, on a là aussi un changement chez les hommes.
Ah, c'est fou, en moins de 20 ans, vous dites, c'est pas des temps que les sociologues observent pour toutes ces ruptures, c'est plus sur un demi-siècle que ça se joue d'habitude.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire nous on n'est pas habitués, on peut dire, à ces évolutions vraiment massives et rapides. Et il faut savoir que, en fait, l'évolution in fine, elle se situe moins entre 2006 et 2015. En fait, on a une autre étude qui permet de voir qu'est-ce qu'il y en a en 2015, et en fait c'est surtout depuis 2015 ça a augmenté. Et nous, on le met beaucoup en lien avec le mouvement MeToo, qui est sans doute un des éléments principaux pour expliquer cette évolution.
Il y a une libération aussi peut-être de la parole qui permet d'affirmer des choses qu'on ne donnait pas, qu'on ne livrait pas avant aussi dans les enquêtes peut-être. En tout cas, on déclare que chez les jeunes femmes, les jeunes femmes qui se déclarent bisexuelles ou pansexuelles, elles ne le sont pas toujours en pratique. Ça, c'est assez fou. 39% des femmes qui s'identifient comme bisexuelles, 52% comme pansexuelles, n'ont jamais eu de rapport avec une personne de l'autre sexe. Donc c'est quoi ? C'est un fantasme ou c'est une affirmation de droit à aller voir ce qui se passe ?
Ben, c'est sans doute, chez les femmes tout particulièrement, un questionnement, une interrogation sur l'hétérosexualité. Et pas uniquement comme relation, mais comme système, comme norme. C'est-à-dire que depuis le mouvement MeToo, on a parlé évidemment des violences faites aux femmes, mais on a aussi beaucoup parlé de sexualité et de inégalité de genre dans la sexualité, et notamment l'hétérosexualité. Très certainement, il faut voir cette augmentation forte chez les jeunes femmes comme une manière, quelque part, de prendre de la distance avec l'hétérosexualité comme
avec système. Le modèle.
Voilà, et donc une forme de dire, mais moi je veux plus m'identifier à ce système. Et donc voilà, donc c'est aussi un rapport politique à la sexualité, de fait de se dire autre chose, notamment bisexuel et pansexuel. Et de fait, les personnes, et notamment les femmes qui se définissent comme cela, se disent dans une grande mesure féministes. Donc on a là quelque chose qui est très
lié.
Voilà.
Ouais. Et qu'est-ce que ça dit de l'évolution des rapports entre les genres ? On parle beaucoup des oppositions entre des jeunes hommes qui deviendraient de plus en plus masculinistes. On parle du gender gap parce qu'il y a des jeunes femmes qui seraient, elles, de plus en plus progressistes sur les droits, alors que reviendraient à des modèles traditionnels et hétéronormés. Donc qu'est-ce que ça dit de l'évolution des rapports jeune fille, jeune homme, on va dire ?
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de polarisation. Ouais. Et en fait, nous, dans notre étude, c'est pas quelque chose qu'on voit. Bien au contraire, si on regarde les pratiques, les normes et les représentations des femmes et des hommes, et on voit comment ça évolue au fil du temps, on n'a pas du tout un gap, on n'a pas un plus grand écart entre les deux sexes. Au contraire, on a un rapprochement. C'est-à-dire que les jeunes femmes et hommes aujourd'hui ont des pratiques de représentation et des normes plus proches, finalement, en matière de genre, de sexualité, qu'avant. Donc, je pense que cette idée de polarisation, tout dépend de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on fait une enquête sur les votes, sur de sociologie électorale, ou est-ce qu'on fait une enquête sur la sexualité ? En fait, on ne va pas forcément voir les mêmes choses. En tout cas,
cette idée que parce qu'il y a évidemment cette étude qui a fait grand bruit sur la baisse du nombre de rapports sexuels chez les jeunes, et qui a amené finalement à cette conclusion peut-être un peu au doigt mouillé, qui est qu'on ne... Pardon pour le jeu de mots, mais qui est qu'en fait, c'est parce qu'ils ont de moins en moins envie de se confronter à l'autre genre que finalement ils ne font plus l'amour. Donc MeToo aurait en fait fait descendre le désir, si je résume, hein, l'enchaînement logique qu'on a vu émerger.
Oui, il y a eu cette idée que le MeToo, ça sert à la guerre des sexes, que ça serait voilà, un moment qui divise et clive les deux sexes. C'est pas du tout ce qu'on voit. Au contraire, si on regarde, par exemple, les jeunes qui se disent féministes, et en fait, elles sont nombreuses, c'est 75% des jeunes femmes qui se disent féministes et 56% des hommes quand même. En fait, les personnes qui se disent féministes ont plutôt des attitudes, on va dire, très oui. libérales vis-à-vis de la sexualité, ont de fait des expériences aussi très, très diverses. Donc, on ne voit pas du tout le mouvement MeToo comme quelque chose qui éloignerait les femmes des hommes ou les éloignerait de la sexualité. Bien au contraire, c'est un mouvement et le fait de se dire féministe qui va de pair avec une sexualité plutôt affirmative.
Mais oui, c'est ça qu'on voit dans votre étude, vos recherches, c'est que le sexe sans lendemain n'est plus l'apanage des hommes, ça se développe vraiment de plus en plus chez les femmes, les jeunes femmes, et cette idée finalement de la jeune femme à la jambe légère qui était entourée de péjoratifs, ça devient un peu l'inverse maintenant, la prude, elle est mal vue.
Ben disons que je pense que c'est vrai que les femmes risquent toujours d'être stigmatisées de filles faciles ou de putes. Je pense qu'il faut dire que ce stigma-là, il n'a pas disparu.
Il est toujours présent.
Il y a toujours une inégalité des sexes de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que par le passé, les femmes accèdent à la sexualité non conjugale. C'est plus accepté, c'est plus discible, c'est plus faisable de, voilà, d'avoir plusieurs partenaires, y compris des partenaires non conjugaux. Et c'est vrai aussi qu'on a cette deuxième figure de la prude. Donc, on a comme maintenant une forme de tension normative où pour les filles, il s'agit pas être une pute, mais pas être une prude non plus. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibre. Voilà, c'est ça. Donc, ça montre que les choses bougent, mais qu'il y a des tensions normatives fortes qui concernent vraiment beaucoup les femmes et beaucoup moins les hommes.
Donc finalement, ce sont les normes qui créent la sex recession, dont certains parlent, la récession du sexe.
Alors, la récession du sexe, j'ai envie de dire qu'une fois pour toutes, elle n'existe pas. Je
D'accord.
pense que c'est vraiment un terme médiatique qui s'est diffusé.
Mais cette enquête de l'IFOP qui disait qu'il y avait moins de rapports sexuels chez les jeunes, elle est biaisée
Ben, surtout, ça dépend de ce qu'on regarde. On peut regarder les rapports sexuels, on peut regarder les partenaires sexuels. Mmh. Nous, on a regardé notamment le nombre de partenaires sexuels qui ont fortement augmenté au cours de la dernière décennie, particulièrement chez les jeunes. Il y a vraiment une augmentation très, très importante. Alors, après, si on regarde l'activité sexuelle, nombre de rapports. Oui, il y a des études qui disent que ça a baissé, mais en fait, le facteur principal qui explique ça, c'est le célibat. Les gens sont plus célibataires aujourd'hui et de fait, les célibataires ont une sexualité moins régulière que des gens en couple. Donc, dès qu'on a un célibat qui est plus important, parce qu'on se met en couple plus tard, parce qu'on se sépare, automatiquement, mécaniquement, oui, les gens vont déclarer moins de rapports. Donc, en fait, cette idée de récession sexuelle, c'est juste une incompréhension de comprendre ce qui se passe.
Et puisqu'on parlait de travail tout à l'heure, de travailler mieux pour travailler plus, est-ce que ce célibat, il a un lien aussi avec la précarité? Il a un lien au retard dans l'accès au monde du travail? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre des conditions sociales d'épanouissement qui renforcent le célibat et donc qui font baisser les chiffres de la sexualité?
Ben, ce qui est sûr, c'est qu'on a, les sociologues disent que la jeunesse s'allonge, en fait, parce que finalement, il y a plein d'étapes de passage à l'âge adulte, en fait, qui ont été repoussées. Donc, c'est l'indépendance économique, avoir un premier emploi stable, partir de chez les parents, voilà, aussi fonder une famille, tout ça, ça se fait plus tard. Donc, oui, c'est lié à des facteurs vraiment macro. Les jeunes sont plus dans une période d'insécurité plus longtemps. Donc, c'est une forme de vulnérabilité. Mais c'est aussi un report des responsabilités. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on voit aujourd'hui une vraie diversité relationnelle, sexuelle à la jeunesse, parce que c'est devenu une période d'expérimentation. On a une situation qui est instable, mais ça aussi, à un moment, on peut tester des choses, on ne pense pas forcément à s'engager, donc on a une forme d'inventivité, là aussi, de forme relationnelle et expérience sexuelle.
Et pourquoi pas, je le disais, profiter d'un petit moment de télétravail pour expérimenter des choses, comme vous dites, Marie Bergström. L'ouvrage que vous avez dirigé, La sexualité qui vient, est publié aux éditions de La Découverte. Grand merci à vous et grand merci à nos trois invités de la première partie. Dominique Méda, votre livre Une société désirable est édité chez Flammarion. Moussa Camara, quelle sera la prochaine action de votre association Les Déterminés?
Bah, c'est l'année des 10 ans. Donc
vous allez fêter les 10 ans.
On va bientôt fêter les 10 ans.
Et merci à Lorraine Lévy, alias Lo Lévy, sur les réseaux TikTok principalement. Vous avez plus de 500 000 abonnés. La prochaine vidéo, ce sera sur quoi?
Peut-être sur l'entrepreneuriat. Parce que je parle beaucoup...
Avec Moussa en featuring.
Du statut auto-entrepreneur.
Je lui dis, il faut qu'elle parle de...
De la solitude
de l'auto-entrepreneur. Ok, merci beaucoup à tous les quatre. Et merci à mon équipe qui a travaillé sur cette émission. Rédaction en chef Redouane Tella, réalisation Fred Milano, préparation Marion Philippe, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin et à la technique cette semaine Benjamin Wagon.